Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole et que nous puissions prendre le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. J'aimerais relire ce verset. Ces deux versets, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je continue. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. J'aimerais partager une pensée sur le fait que bien des hommes et des femmes se posent ainsi la question, mais si Dieu existe, où est-ce qu'il est ? Si Dieu existe, pourquoi il ne voit pas tout ce qu'il y a sur cette terre ? Pourquoi il ne voit pas toutes ces guerres qu'il y a sur cette terre ? Pourquoi il n'entend pas tous ces hommes qui crient, ces femmes qui crient dans la souffrance ? Pourquoi il ne fait rien ? Et c'est un raisonnement qui, question après question, tend à comparer Dieu à cette statue qui est décrite. C'est un raisonnement qui tend à mettre Dieu, à rabaisser Dieu au même niveau qu'une statue qui ne peut pas voir, une statue qui ne peut pas entendre, une statue qui ne peut pas toucher, se déplacer. Et c'est un raisonnement qui peut nous amener, hélas, très loin de Dieu. Le verset qui précède justement cette description dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Il est indépendant. Dans tout ce qu'il fait, c'est lui qui décide d'agir ou de ne pas agir. Et encore heureusement cet après-midi, la patience de Dieu, c'est une preuve de son amour. L'apôtre Paul écrit d'ailleurs, l'amour est patient. Et si Dieu patiente, c'est parce qu'il aime les hommes et les femmes. Il est écrit aussi dans la parole que Dieu parle, à l'inverse des statues, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc le problème n'est pas de Dieu qui ne fait rien, de Dieu qui ne parle pas, de Dieu qui n'étend pas sa main. Le problème vient de nous. Le problème vient de nous qui soit n'entendons pas quand Dieu nous parle, qui n'arrivons pas à ouvrir les yeux sur ce qu'il fait pour nous et qui n'arrivons pas à comprendre tout l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. Moi, j'en arrive à une question, c'est finalement, Dieu a tout fait pour que les hommes soient heureux. Pourquoi l'homme est ainsi à se poser cette question et ainsi à se dire qu'il est loin de Dieu ? Pourquoi l'homme, lui, est si loin de Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'on se sente si loin de Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à se poser des questions sur le fait que Dieu existe ou qu'il n'existe pas ? Nos raisonnements nous perdent et pourtant la Bible nous apprend plein de choses sur le fait que si Dieu est loin, c'est à cause de nous. Si Dieu est loin, c'est à cause de nous. C'est nous qui nous éloignons, c'est pas Dieu qui s'éloigne. Dieu a tout fait pour se rapprocher des hommes. Et quand Dieu a créé l'homme, il voulait être auprès de lui. Il voulait être auprès de lui. L'homme aujourd'hui se cache. L'homme aujourd'hui se cache. Et c'est ainsi qu'il se trouve éloigné de Dieu. J'aimerais qu'on voit un premier exemple ensemble dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous voyons le moment, l'exact moment où l'homme, de proche de Dieu, s'éloigne de Dieu, de l'homme, du cercle intime de Dieu, l'homme sur qui les bontés, les grâces, les paroles de Dieu viennent, il se retrouve ainsi éloigné de Dieu. Nous lisons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. » On a ici une séparation qui s'ouvre. On a ici un passage remarquable où même Dieu est appelé l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Dieu dans toute sa plénitude, Dieu, celui qui dialoguait tous les soirs avec l'homme, la femme. Ça devait être beau, j'imagine, tous les soirs. L'homme et la femme avaient ainsi un temps avec Dieu. Parce qu'il parcourait le jardin, la manière dont c'est écrit, ça nous montre que c'était quotidien. Et Dieu aimait se trouver en présence de l'homme pour, entre guillemets, pour bavarder, je ne veux pas manquer de respect pour ça, mais pour donner à l'homme ce dont il avait besoin et pour que aussi l'homme puisse aussi se confier en lui, avoir ce temps de proximité. C'est un temps qu'il avait régulièrement avec Adam, avec Ève. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, on ne sait pas, mais ça a duré un certain temps. Mais un jour, il y a eu un problème. Un jour, il y a eu le péché qui est arrivé. Un jour, il y a eu une désobéissance. Et cette désobéissance a opéré directement. Le péché a fait que l'homme a senti ce besoin d'aller se cacher. L'homme a senti ce besoin d'aller se protéger d'un Dieu qui allait le punir. Or, avez-vous remarqué la question que Dieu pose ? Est-ce que c'est une question qui laisse sous-entendre une punition ? Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Est-ce que cette question était sur un ton autoritaire ? Est-ce que c'était une question qui disait, « Où es-tu ? » Sors de ta cachette, que je puisse t'attraper. Non, c'est pas ça que Dieu dit. C'est un ton doux. Parce que Dieu, tout à nouveau, voit l'homme misérable en train de se cacher. L'homme qui a peur de lui. Et Dieu, dans son cœur, est attristé de voir l'attitude de l'homme. Et ce que fait Dieu à nouveau, c'est qu'il essaye de rétablir le contact avec l'homme. Et il pose ainsi cette question, où es-tu ? Et cette question, peut-être, elle nous est posée cet après-midi. Où es-tu cet après-midi ? Peut-être que tu as eu ces raisonnements que j'ai décrits tout à l'heure, si Dieu existe. La question, c'est pas Dieu, où es-tu ? C'est Dieu qui te pose la question, toi, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi je ne puis pas intervenir dans ta vie pour te faire du bien ? Pourquoi tu te caches ? Pourquoi tu restes derrière les arbres. Pourquoi tu ne peux pas ainsi venir devant moi ? Parce qu'il y a un problème à régler. Et Dieu, dans cette question-là, il cherche simplement... Vous croyez que Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève ? Ce Dieu qui sait tout, ce Dieu qui est partout, ne saurait pas où étaient Adam et Ève ? Bien sûr que si, qu'ils le savaient. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que cette question, elle est posée pas dans le but de savoir où ils étaient. La question, elle est posée, on voit là toute la pédagogie de Dieu qui cherche simplement à ouvrir la discussion, qui sert simplement à rétablir ce contact perdu à cause du péché qui est là. Il veut retrouver cette communion perdue entre l'homme et lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Ce n'est pas Dieu qui est loin, c'est nous qui nous en allons. C'est nous qui nous cachons, parce qu'on a des choses à nous reprocher, parce que le péché est là sur notre vie. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous priver de sa gloire ? Parce que Dieu veut nous priver de sa présence ? Absolument pas. Mais parce que le péché qui est en nous ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Et tant que ce péché est en nous, on ne pourra pas avoir accès à la maison de Dieu. On ne pourra pas avoir accès à sa présence parce que ce péché-là, Dieu le voit. Dieu voit dans nos cœurs, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et à moins que ce péché ne disparaisse, nous ne pourrons pas être acceptés dans la présence de Dieu. C'est impossible. Et le réflexe qu'on a, c'est là où on voit le diable, comment il est capable de nous mentir. C'est que non seulement il nous fait tomber, mais une fois qu'on est par terre, il nous accuse. Mais non, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, c'est pas possible, là tu es allé trop loin. Là c'est mort, là. C'est pas la peine d'essayer. Tu es allé trop loin. Là. Comment tu as pu faire ça ? C'est pas possible. Ça c'est la voix du diable qui nous accuse, qui ne veut pas qu'on se relève. Dieu nous cherche. Dieu veut à nouveau avoir ce temps avec nous. Il nous veut près de lui. Et cette question-là, elle est toujours là, parce que Dieu, il veut, il ne se pose pas la question où est-ce qu'on se trouve. Il ne veut pas savoir si on a péché, si on n'a pas péché. Il veut juste nous montrer qu'il nous cherche. Et oui, le péché qui est dans ton cœur, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir à cause de ce péché-là. Il a porté ce péché sur la croix du calvaire. Avant d'aller plus loin dans cette idée-là, j'aimerais qu'on voit une autre cachette. Et là, nous allons dans l'évangile de Jean. Là, la cachette d'Adam et Ève, elle était... C'était une cachette, mais on peut se cacher plus profondément encore. Et dans l'évangile de Jean, on a une image de ce que cela peut être. Au chapitre 11, nous avons une histoire d'un homme qui est dans une caverne. On ne va pas lire toute l'histoire parce que ce serait trop long. C'est un homme qui est mort, qui est aussi au fond d'une grotte, qui est caché. Et la comparaison peut s'avancer aussi jusque-là. C'est que si je persiste dans mon péché, si je persiste dans mon attitude résistante face à Dieu, si je persiste à pratiquer ce qui déplaît à Dieu, alors que j'ai entendu sa voix, alors que j'ai entendu le message, l'invitation de Dieu à venir s'approcher, à venir chercher la bénédiction, à venir éprouver justement cette paix que Dieu veut te donner cet après-midi, peut-être as déjà-tu entendu ce message une première fois ? Et tu ne t'es pas avancé, tu n'as pas demandé pardon et tu t'enfonces dans quelque chose. Laisse-moi te dire cet après-midi que si le péché est toujours aussi présent dans ta vie, si tu persistes dans ce péché, tu seras comme cet homme. Tu seras mort. Ton péché va t'enfermer. Ton péché va t'isoler. Ton péché va faire en sorte que tu ne pourras plus entendre la voix de Dieu parce que tu seras trop endurci, tu te seras caché trop profondément. Lazare est un homme qui se retrouve dans une grotte. Et il est mort, il est dans sa cachette aussi. C'est une image, bien sûr. C'est une image de ce qui se passe et de ce qui peut être en nous si jamais on persiste dans cette mauvaise voie que nous empruntons. Lisons le verset 38. Alors qu'il y a toute une histoire, il y a Lazare qui est mort, il va se retrouver devant le tombeau de Lazare. On peut lire à partir du verset 35. Il est devant le tombeau, tout le monde pleure, tout le monde est là, ça fait plusieurs jours qu'il est dans la grotte. Et Jésus, le verset 35 nous dit, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oui, si tu persistes à être dans ta grotte, Dieu va devoir peut-être crier plus fort. Pourquoi Dieu a besoin de crier? Parce que tu es trop loin. Tu es trop loin, alors Dieu crie. Parce que tu persistes dans ton péché, alors tu t'éloignes toujours plus de Dieu, tu te retrouves dans cette grotte et à la fin tu es comme mort, parce que tu deviens insensible à la voix de Dieu. Heureusement, Dieu a une voix assez forte pour permettre le miracle. Et cet après-midi encore, Dieu peut te dire, sors de ta cachette, sors de là, parce que je veux te faire du bien. Arrête d'être là, enfermé, dans ton coin, arrête d'être là, enfermé, à faire ce qui te fait honte. Parce que Dieu veut te délivrer de ces choses. Mais si tu persistes, alors tu seras comme cet homme, Lazare. Derrière quoi tu te caches? Est-ce que tu te caches derrière de la musique parce que tu as peur du silence, tu ne veux pas réfléchir, tu ne peux pas... Tellement tu as honte de toi, tu préfères ne penser à rien parce que tes pensées t'accusent toujours? Est-ce que tu te caches devant ta télé, devant ton ordi, tu es planqué dans ta chambre à regarder des saletés et tu en as honte? C'est une cachette qui risque de t'enfermer. Est-ce que tu t'es perdu dans ta vie professionnelle? Il y en a, ça arrive. On est à fond dans le travail, la tête dans le guidon, comme on dit, pour ne pas penser. Pour ne pas penser, toujours gravir les échelons. Laisse-moi te dire que si ton travail est un objectif, c'est pas mal de travailler. C'est nécessaire. On a besoin de travailler. C'est Dieu qui a permis qu'on ait besoin de travailler. Il faut travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je dis simplement qu'il ne faut pas que ton travail soit ton Dieu. Il ne faut pas que ton travail soit en la première place. Parce que si tu es tout le temps dans ton travail et que tu perds du temps précieux que Dieu voudrait passer avec toi, ce temps que Dieu voudrait avoir avec toi pour te parler, pour te donner des choses, tu ne pourras pas le passer parce que tu te caches, parce que tu as honte de quelque chose. Il y a un problème dans ton cœur qui fait que ton travail est une fuite, est une porte de sortie qui te permet d'éviter de parler à Dieu. Ne reste pas dans cette situation-là. Est-ce que c'est l'alcool qui te cache? Est-ce que tu te caches derrière des bouteilles d'alcool? Parce que tu ne veux pas penser, tu veux oublier? Et l'alcool va t'y aider. Mais une fois que tu as fini, que tu reviens à tes esprits, le problème est-il parti? Absolument pas. Il te faut une guérison totale. Et ce n'est pas des bouteilles d'alcool qui vont ajouter. Ce ne sont pas ces bouteilles-là qui vont te permettre d'avoir une délivrance. Ce péché qu'il a, il est là le problème. Il faut que ce péché soit ôté. C'est seulement quand ce péché-là sera ôté que tu pourras retrouver une paix que tu n'as peut-être jamais connue, une joie que tu n'as peut-être jamais connue, comme on l'a chanté tout à l'heure. la joie du chrétien. Elle est grande, la joie du chrétien. Oui, comme le disait Jonathan, un chrétien peut souffrir, peut passer par des moments difficiles, mais il sait une chose, c'est que Dieu n'est pas un juge, mais un berger. Dieu est son berger et il sait qu'il pourra compter sur lui, même dans la souffrance. C'est là ce qu'a le chrétien que n'a pas celui qui est révolté contre Dieu. Alors oui, Dieu t'appelle cet après-midi. Il est obligé de parler fort, peut-être. Mais réagis à l'appel du Seigneur. Regardons encore une fois dans le livre d'Ésaïe, pour que ce soit clair. Dans le livre d'Ésaïe, on a les explications de Dieu. Ce que je vous dis, c'est biblique. Ésaïe, chapitre 59, on va lire le début. Tu peux être mort dans ta grotte, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sortir de là. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Je m'arrête là, mais c'est la description de ce que fait le péché. Le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça qu'on est loin de Dieu. Et des fois, je suis tellement loin de Dieu que j'en suis à me poser la question de savoir s'il existe. Mais si seulement je ne m'étais pas éloigné. Grâce au Seigneur, il y a une solution. Il y a un remède à cette situation. Parce que Dieu a toujours fait le premier pas. Tout à l'heure, je disais que Dieu a posé la question, il a cherché à rétablir le contact. Et par rapport au péché, il en est de même, parce que Dieu s'est dépouillé de toute sa gloire pour marcher parmi les hommes et mourir sur la croix pour nous sauver. Dans Jésus-Christ, j'aime bien ces images, il y a Jésus, il y a Christ, et au milieu, il y a un petit trait d'union. Jésus, c'est la partie humaine de Dieu qui est faite chair. Christ, c'est la partie divine de Dieu. Et Dieu fait le pont vers les hommes et les femmes en la personne de Jésus. C'est Dieu qui a rétabli le contact le premier avec l'humanité tout entière, en naissant comme nous, en marchant sur cette terre méprisée de tous ses contemporains, souffrant jour après jour de sa propre situation. Sa naissance est quand même compliquée. À l'époque, c'était difficile de croire à un miracle d'une personne née que d'une femme. Forcément, beaucoup ne l'ont pas cru. On n'imagine pas tout ce qu'a subi Jésus quand il était parmi nous, à marcher, allant de ville en ville, de village en village, pour bénir, pour faire du bien, pour guérir, donner une parole qui relève, donner une parole qui console. Voilà l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est Dieu fait homme qui cherche à rétablir le contact perdu entre les hommes pécheurs et Dieu, qui nous aime toujours. Dieu nous a tellement aimés, nous sommes pécheurs, mais Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, nous a donné son Fils. C'est là la preuve de son amour, c'est ce que Paul écrit dans Romains 5:8. C'est la preuve de son amour. Il a rétabli le contact avec nous en marchant, en souffrant parmi nous. Quand il est mort, sa mort elle-même est toute une succession de souffrances plus atroces les unes que les autres. Il a tout fait cela parce qu'il nous aimait, parce qu'il désire que nous puissions à nouveau avoir accès au ciel, que nous puissions avoir à nouveau cette communion perdue avec Dieu le Père, qui veut nous faire du bien, qui veut nous donner la paix, qui veut nous donner le repos. Mais nous ne pouvons l'obtenir que parce que Jésus a fait. En croyant à ce sacrifice, en croyant en ce qu'il a fait pour nous, tu peux obtenir cet après-midi le pardon de tes péchés. Tu peux obtenir cet après-midi une pleine délivrance sur ta vie. Et tout ce qui t'éloigne de Dieu peut disparaître en une seule décision, celle de croire en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a dit à Marthe et à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux être comme Lazare, comme mort. Tu te dis, je m'en sortirai pas, c'est pas possible, j'y arrive pas, je suis mort. Dieu est capable de te faire sortir de là quand même. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver. Jacques écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il nous appartient à nous de prendre la bonne décision. Il nous appartient à nous de nous approcher pour recevoir la bénédiction que Dieu veut nous donner. C'est notre décision. C'est à nous de le faire. Dieu ne peut pas le faire à notre place. Dieu a tout fait pour que nous puissions obtenir toutes ces choses. À nous de faire ce pas qui nous reste. Aller vers lui, repentant, en lui demandant pardon pour les péchés, en demandant pardon d'avoir été si loin de lui, en demandant pardon d'avoir douté de son amour. Dieu aurait créé des hommes sans les aimer, c'est pas possible. Dieu a toujours aimé les hommes. Et Dieu veut nous montrer encore qu'il nous aime, en nous accompagnant, comme on l'a chanté, jour après jour. Dieu veut être ton berger. Dieu ne veut pas être ton juge, mais ton berger. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Cet après-midi, peut-être que tu réalises que tu as besoin de la grâce de Dieu. Peut-être que tu réalises que oui, il te faut comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Oui, tu réalises que c'est pas Dieu qui est loin, c'est toi qui t'es éloigné. C'est toi qui as cherché à te cacher. C'est toi qui a mis cette barrière du péché entre toi et Dieu. Et tu aimerais découvrir qui est ce Dieu qui t'aime. Cet après-midi, tu aimerais aller encore plus loin et que Dieu se révèle à ton cœur. Alors, c'est une décision qui t'appartient. Nous allons reprendre un chant. Si tu as besoin de la prière, je vais pouvoir prier pour toi. Mais même sans t'avancer, tu peux obtenir cette bénédiction. Tu peux obtenir cette révélation de Dieu. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir ce cœur honnête, droit et sincère. Comme David qui dit « Lave-moi et purifie-moi. Lave mon cœur. » Et je serai plus blanc comme la neige. Il suffit d'une attitude de cœur. Et Dieu peut venir cet après-midi dans ton cœur te visiter. Te montrer qu'il t'aime tout à nouveau. Je vais prier pendant que les musiciens se préparent. Nous allons reprendre un dernier chant. Et pendant ce chant, si vous voulez que je prie pour vous, avancez-vous et je prierai. Seigneur Jésus, je veux te prier pour te demander ta grâce. Sur nous tous qui sommes là rassemblés, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Et tu veux nous bénir tous. Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, pour que ta paix soit déversée. Que le repos soit déversé. Que la liberté soit proclamée. Là où le péché enchaîne. Seigneur, tu es la délivrance. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui ressuscite les morts comme nous l'avons vu. Seigneur, que nous puissions avoir ce cœur prêt à croire et à obéir. Que nous puissions avoir cette juste attitude de cœur qui nous permettra alors de nous rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus, Amen.